europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Frédéric Lebel.
Guillaume Meunier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Carrefour de l'Europe, l'émission qui veut vous faire comprendre l'Europe, les nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée, le climat, la reprise, les réfugiés, le Covid, la défense, la liste est longue. Carrefour revient donc en ce mois de septembre avec des habits neufs, une nouvelle équipe à la manœuvre. C'est celle qui, tous les jours de la semaine dans Accent d'Europe, vous fait vivre le continent à travers ses reportages. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Patrick Martin-Jeunier. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes enseignant en droit public à Sciences Po à Paris, auteur de L'Europe a-t-elle un avenir ? Et j'ai envie de m'adresser en premier lieu aux citoyens plutôt qu'à l'expert. Pourquoi est-ce si important que dans le monde d'aujourd'hui, l'Europe ait un avenir ?
Eh bien, parce que d'abord, nous sommes tous sur le même continent, nous avons une même culture au niveau européen. Et si demain, nous voulons peser sur la scène internationale, ce n'est pas un pays indépendamment qui pourra le faire, c'est de façon ensemble de pouvoir peser sur la scène internationale. Et on a bien vu qu'avec l'euro, c'était tout à fait important. Et donc, c'est pour ça, indépendamment, l'Italie, la France, même si nous sommes une puissance nucléaire, nous sommes désormais des petites, voire des moyennes puissances. Et donc, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons avoir un poids sur la scène internationale.
L'émission sera placée sous le signe de nombreux scrutins aussi qui font l'actualité cette mi-septembre. On vote en Russie, on va voter en Allemagne le week-end prochain. Mais tout de suite, la grand-messe. Je ne parle pas de la visite du pape en Slovaquie ou en Hongrie, mais bien du discours de la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen a présenté aux députés européens les grandes lignes de son programme, résumé avec Carlotta Morteo à Strasbourg.
Souriante, Ursula von der Leyen a tout d'abord vanté la réussite de la campagne vaccinale en Europe et marque le coup en annonçant aujourd'hui un don de 200 millions de doses pour les pays les plus pauvres. Volontariste, la présidente de la Commission a mis en avant son ambition pour l'Europe, faire du vieux continent un pôle de fabrication de semi-conducteurs, de puces électroniques, pour sortir de sa dépendance vis-à-vis de l'Asie. Vaste chantier, elle en a conscience, mais le développement de l'économie numérique européenne est une priorité de son mandat, tout comme la cybersécurité, un point qu'elle a longuement développé quand elle a esquissé ses idées pour le renforcement de la défense européenne. Un sommet aura lieu en 2022 sous la présidence française du Conseil pour avancer sur cette question. C'est un serpent de mer, mais l'urgence est là, puisque l'OTAN, dit-elle, ne sera peut-être plus le garant de la sécurité de l'Europe et de son voisinage. Côté fiscalité, elle a promis une loi pour lutter contre l'évasion fiscale et elle soutient un accord sur le taux minimum d'impôt sur les sociétés, pas sûr que cela fasse l'unanimité. Rien de concret en revanche en matière de migration, un sujet qui divise, et si elle a évoqué la défense des valeurs européennes, elle n'a pas mentionné la Hongrie et la Pologne, deux pays avec lesquels l'UE a des contentieux juridiques.
Carlotta Morteo qui nous dit qu'Ursula von der Leyen a préféré ne pas évoquer la tension avec la Hongrie et la Pologne. C'est décidément un sujet bien trop explosif.
Oui, c'est un sujet qui fâche, car on sait bien aussi qu'Angela Merkel en Allemagne ne souhaite pas s'opposer à la Pologne et à la Hongrie. Ce sont des pays qui violent les valeurs européennes. On a un traité, la tolérance, la démocratie, l'indépendance de la justice, le droit des minorités. Et donc, ce sont des pays qui ne respectent pas. Et aujourd'hui, on voit bien que certains pays sont tout à fait hostiles à sanctionner la Hongrie et la Pologne. S'agissant de la Hongrie, il y a une atteinte aux droits des minorités, la communauté LGBT par exemple, il y a une atteinte à la liberté de la presse. En Pologne, il y a une atteinte à l'indépendance des juges. Autant de pays qui sont contre les valeurs européennes. Et Ursula von der Leyen voit bien que certains pays ne souhaitent pas qu'ils soient sanctionnés. Néanmoins, il faut mentionner le fait que la Commission européenne a introduit une procédure d'infraction devant ces pays qui prendra beaucoup de temps.
Ouais, on va pas aller jusqu'à lier le plan de relance économique au respect de l'état de droit, ça serait trop dangereux.
Oui, non, parce que lorsque ce plan de relance a été décidé il y a un an, bien sûr que le président de la République française souhaitait qu'on relie cela aux droits de l'homme, mais Angela Merkel ne le souhaitait pas, et par conséquent, l'attribution et des versements du plan de relance ne sont pas liés au respect de l'état de droit.
Oui, certains députés aimeraient bien pourtant que ce soit lié. Souveraineté, c'est un mot qui est revenu souvent dans le discours européen d'Ursula von der Leyen. Retrouver notre souveraineté technologique, mais aussi l'Europe de la défense, un véritable serpent de mer européen. Aujourd'hui, c'est plus urgent que jamais dans l'actualité d'aujourd'hui.
Tout à fait. En prononçant cette notion de défense européenne dans son discours sur l'état de l'Union, Ursula von der Leyen ne savait pas que l'Australie allait rompre unilatéralement un contrat avec la France sur un partenariat stratégique entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et effectivement, on sent aujourd'hui, alors qu'on avait peut-être placé trop d'espoir dans le président Joe Biden, que nous devons aujourd'hui être de plus en plus autonomes, car nous ne pourrons plus continuer à être dépendants des États-Unis, même si naturellement l'OTAN c'est encore la pièce maîtresse de la défense de l'Union européenne.
On sait bien que c'est un thème que veut mettre en avant la France, hein, qui prendra la présidence française de l'UE début 2022. Mais c'est pas un sujet qui fait l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire, cette notion d'autonomie stratégique.
Non, parce qu'aujourd'hui, l'Europe n'a absolument aucune stratégie. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez les traités, ce n'est pas possible d'avoir une défense européenne. Les traités sont extrêmement prudents. Ils parlent d'une politique de sécurité et de coopération commune, une mutualisation. Ils parlent d'un dialogue progressif pour aller progressivement vers une défense européenne. Mais naturellement, nous n'avons pas cette capacité. Le seul organisme aujourd'hui qui est capable d'assurer la sécurité de la démocratie de l'Europe et ailleurs, c'est bien l'OTAN. Il n'y a pas d'alternative pour l'instant. Et donc, je pense qu'on fait peut-être une mauvaise appréciation de ce que signifie une défense européenne. Que nous ayons un dialogue stratégique, c'est important, mais nous n'avons pas aujourd'hui une capacité à partir sur des terrains étrangers. On a bien vu la France au Sahel, très peu de pays finalement l'ont suivi. Et on peut parler d'un dialogue stratégique, mais certains pays comme l'Allemagne refuseront toujours de s'engager sur le plan militaire. Ça ne sera pour l'instant que des opérations civiles sur les terrains extérieurs.
Mais il y a encore beaucoup de marge, en tout cas de manœuvre, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, pour aller vers plus de coopération.
Tout à fait. D'autant que l'armée européenne a été enterrée en 1954 sur le gouvernement Madès France. Et depuis, on n'a pas véritablement avancé, même s'il y a un dialogue, une volonté d'aller plus loin.
Carrefour de l'Europe. Frédéric Lebel.
La question des flux migratoires, des demandeurs d'asile, des migrants, quel que soit le vocabulaire que l'on choisisse, est revenue sur le devant de la scène avec une grande force depuis la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan. L'Europe semble avoir une obsession et une seule, éviter à tout prix que se reproduise ce qu'on appelait la crise des réfugiés en 2015 avec le conflit en Syrie. Je vous propose d'écouter ce reportage d'Anne Andlauer, notre correspondante à Istanbul. La Turquie qui accueille sur son sol 3,7 millions de réfugiés en vertu d'un accord signé avec l'Europe. L'UE qui aimerait bien continuer à déléguer l'accueil des réfugiés à des pays tiers, mais Ankara ne semble pas prêt à faire plus d'efforts pour accueillir cette fois les Afghans. Ces dernières semaines, le gouvernement a multiplié les arrestations, provoquant un sentiment de peur chez des centaines de milliers d'Afghans non déclarés. Reportage sur la communauté des chiffonniers afghans à Istanbul.
En pleine nuit, à environ 3 heures, le 21 août dernier, la préfecture d'Istanbul a lancé une opération inédite en son genre. Cette nuit-là, 286 collecteurs d'emballages ont été verbalisés. Parmi eux, 145 Afghans, aussitôt transférés vers un centre de rétention. Moubine, un Afghan de 20 ans, a échappé aux arrestations. Mais l'entrepôt de son patron a dû fermer et son chariot a été saisi.
Depuis bientôt un mois, je ne peux pas travailler, je reste chez moi. J'ai à peine de quoi manger. Heureusement que mon patron m'aide, il a bien voulu me faire crédit.
Moubine a quitté l'Afghanistan pour la Turquie tout seul, à l'âge de 11 ans. C'est la première fois qu'il se retrouve sans revenu pendant si longtemps. Sa mère, sa sœur et son frère, restés à Kaboul, attendent de ses nouvelles.
Comme je ne travaille plus, je ne peux plus leur envoyer d'argent, alors que je sais qu'ils en ont besoin, et pour des choses aussi essentielles qu'acheter du pain. Au moment des évacuations à Kaboul, ma famille a essayé de fuir, mais à l'aéroport, les soldats américains ne les ont pas laissés passer, alors ils sont rentrés chez eux.
Ces trois dernières années, les Afghans sont, de très loin, les plus nombreux à entrer illégalement en Turquie. Entre janvier 2018 et septembre 2021, les autorités ont arrêté 394 000 Afghans en situation irrégulière. Des centaines de milliers d'autres vivent dans le pays sans être enregistrés. Et beaucoup, comme Moubine, vont de petits boulots en petits boulots, sur les chantiers, dans les champs et ailleurs. Ils sont de plus en plus visibles parmi les chiffonniers. Mahmoud, un Turc qui fait ce métier depuis 4 ans, estime que les dernières opérations de police étaient un coup de communication.
Les autorités font ça pour dire à l'opinion, vous voyez, on ne laisse pas travailler les étrangers, on ne laisse pas travailler les Afghans. Mais en faisant ça, elles s'attaquent au gagne-pain de citoyens turcs. Moi, je n'ai pas peur de dire que nous pourrions aider les autorités à arrêter les Afghans, à les empêcher de travailler. Dans cette période où l'on doit se serrer la ceinture, la présence des Afghans est un gros problème pour nous.
La victoire des talibans en Afghanistan a ravivé le débat sur la présence des réfugiés et la crainte d'un nouvel afflux en Turquie, un pays qui accueille déjà près de 3 700 000 Syriens. Mohamed Sedek Yachar, fondateur d'un réseau de solidarité avec les migrants, craint un durcissement des autorités dans les mois à venir.
Peut-être que le pouvoir fait ça pour répondre à l'opposition qui s'en prend chaque jour aux migrants. Peut-être qu'il agit ainsi en prévision des prochaines élections. Chez les chiffonniers qui sont très visibles dans l'espace public, les autorités multiplient les arrestations parce qu'elles veulent que les locaux voient le moins possible les migrants. Le résultat de tout ça, ce que j'entends de la part de tous les Afghans, c'est qu'ils vivent dans l'inquiétude, la peur d'être renvoyés dans leur pays.
Officiellement, 180 000 Afghans vivent légalement en Turquie. C'est le cas depuis 3 mois du jeune chiffonnier Moubine, qui a obtenu un permis de séjour après 9 ans de clandestinité. Ils sont extrêmement rares à y parvenir ou à bénéficier du statut de réfugié. En fait, la Turquie n'accorde pas ce statut aux Afghans. Quant au permis de séjour, il oblige à présenter des garanties financières. Moubine explique qu'il doit son permis à son patron turc, un homme qui l'a pris sous son aile.
Les Turcs, les Kurdes, ce sont des gens bien. Je ne connais aucun pays qui accepterait d'accueillir autant d'étrangers si démunis. Moi, je ne veux pas du tout aller en Europe. Et d'ailleurs, l'Europe ne veut pas des Afghans.
Le rêve de Moubine, c'est de faire venir sa famille en Turquie, notamment sa mère et sa sœur, qui n'ont pas mis un pied hors de chez elles depuis que les talibans sont entrés dans Kaboul.
Patrick Martin-Jeunier, on a entendu le témoignage de ce jeune réfugié qui dit « l'Europe ne veut pas des Afghans ». C'est bien le cas aujourd'hui ?
Écoutez, je serai un peu plus nuancé quand même, parce que dans les traités européens, il est bien stipulé que nous devons avoir une politique commune de l'asile. La Convention de Genève sur les réfugiés, c'est dans les traités. Donc naturellement, lorsque des Afghans viennent en Europe, ils sollicitent l'asile. Certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. Ce qui est extraordinaire quand même, c'est que c'est extrêmement long pour obtenir l'asile. J'ai rencontré encore récemment certains jeunes Afghans qui sont partis à cause de la guerre, me disent « je suis resté 4 ans, 5 ans, qui en Allemagne, en Suède, en Autriche, pour au final voir leur demande d'asile rejetée. »
Et puis il y a une disparité totale. Il est parfois bien plus facile d'obtenir le statut de réfugié en France qu'en Suède. Pour un Afghan, il n'y a pas encore de politique migratoire de l'asile en Europe. C'est-à-dire une vraie entente sur les conditions dans lesquelles ces gens peuvent devenir réfugiés.
Oui, tout à fait. Il n'y a plus du tout d'entente, pour ainsi dire, parce que certains pays n'ont pas la même politique que la France. En Bulgarie, en Roumanie, d'abord, on y traite mal les réfugiés. Et ensuite, on les rejette systématiquement en quelques mois, alors que ça peut prendre plus de temps chez nous. Donc, c'est quand même plus sérieux. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Et certains, lorsque leur demande d'asile a été définitivement rejetée en Autriche ou en Suède, viennent en France en espérant pouvoir l'obtenir.
Oui, c'est ce qu'on appelle les Dublinés. Mais on voit bien qu'il y a un changement quand même de ton. L'Europe, aujourd'hui, aimerait bien déléguer l'accueil de ces migrants à la Turquie, c'est déjà le cas, peut-être aussi au Pakistan, à l'Iran.
Oui, non, mais ça, c'est complètement illusoire. Hein. On ne peut pas déléguer une politique qui nous revient. C'est à l'Union européenne de contrôler ses frontières. Il y a une double politique de contrôle et d'intégration. Le fait de dire qu'on va déléguer à quelqu'un qui va devoir être le bras armé de la politique migratoire européenne, c'est inacceptable. C'est à nous d'assumer notre propre responsabilité. Pourquoi ne l'avons pas nous fait depuis quelque temps ? Parce que nous n'avons pas les moyens. Et donc, il faut renforcer les moyens d'un contrôle extérieur de l'Union européenne. C'est un objectif très important, mais également sur le plan citoyen, différentes élections ont lieu dans tel ou tel pays et la problématique migratoire est très importante. Donc c'est à nous de protéger nos frontières à travers une politique de contrôle par l'Office de garde frontière et garde de côte européenne dont on doit augmenter le budget, les moyens matériels et financiers.
Oui, je pensais plutôt demander à ces pays de garder les Afghans chez eux.
Mais bien sûr, mais vous savez, on est aussi à la merci d'un chantage d'Erdogan qui, à chaque fois qu'on lui dit non ou qu'on a un problème en Méditerranée, parce que vous savez, c'est quelqu'un qui a une politique assez comme expansionniste, menace de lâcher, en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, tous les migrants. Ça veut dire que demain, il peut ouvrir les frontières et laisser tous les migrants, alors même qu'ils reçoivent de l'argent de l'Union européenne, passer à travers les frontières et de refaire le flux migratoire qui avait été fait en 2015.
Oui, le manque de solidarité européenne est aussi une faiblesse de l'Europe. On va partir en Pologne. Le pays construit un nouveau mur avec la Biélorussie, des barbelés pour empêcher depuis Minsk la venue de migrants afghans au Moyen-Orientaux. Varsovie a même décrété l'état d'urgence dans 200 localités transfrontalières, ce qui empêche l'accès des médias et des ONG humanitaires. Les explications de Damien Simonard.
La situation n'est pas sans rappeler celle de 2015 en Hongrie. En pleine crise migratoire, Viktor Orban, premier ministre hongrois à la tête d'un gouvernement populiste, avait fait construire un mur à sa frontière avec la Serbie pour empêcher les migrants d'Afrique du Nord de pénétrer sur le territoire de l'Union européenne. Très proche de Budapest, Varsovie en fait aujourd'hui de même à sa frontière avec la Biélorussie, réagissant ainsi à l'augmentation soudaine du nombre de migrants qui traversent illégalement la frontière biélorusse avec les pays baltes et la Pologne. Le gouvernement polonais accuse le régime d'Alexandre Loukachenko de mener une attaque hybride en encourageant ses migrants du Moyen-Orient à traverser la frontière. Depuis près d'un mois, un groupe d'une trentaine de personnes y est coincé, encerclé d'un côté par les gardes-frontières polonais et de l'autre par les Biélorusses. Les ONG polonaises n'ont pas d'accès à ces migrants pour leur donner des vivres, sous prétexte qu'ils sont du côté biélorusse. Pour mieux surveiller la zone et éviter tout débordement, le Parlement polonais a décrété l'état d'urgence pour un mois dans 183 localités le long des 400 km de frontière avec la Biélorussie, une mesure qui interdit par conséquent aux journalistes de se rendre sur place. L'association Press Club a immédiatement protesté contre, je cite, « la privation de l'opinion publique provenant de sources indépendantes », fin de citation, et accuse le parti populiste PiS d'utiliser la question migratoire pour remonter dans les sondages. La société polonaise est quant à elle partagée sur la question, mais d'après un récent sondage, la majorité des Polonais est favorable à la construction du mur, tout comme à l'instauration de l'état d'urgence.
On parle de quelques dizaines de migrants et Varsovie construit un mur. On est clairement dans une posture politique, une provocation.
Oui, on est dans une posture politique, c'est la politique du mur migratoire qui a tendance aujourd'hui malheureusement à se généraliser. Vous parliez de Varsovie, on a eu Viktor Orban en Hongrie et Erdogan en Turquie a construit un mur et la Grèce continue ce mur également.
Et puis bientôt aussi, nous dit-on, la Lituanie, Vilnius, va construire un mur avec la Biélorussie.
Voilà, c'est un triste constat d'échec de l'Europe qui jusqu'à présent n'a pas su protéger ses frontières. Malheureusement. Donc tous les États nationaux se substituent à l'Europe parce qu'on considère, à tort ou à raison, qu'elle n'est pas en situation de contrôler le flux migratoire. Donc les États sont face à leurs responsabilités. Vous savez, c'est comme lorsqu'on avait parlé des plateformes migratoires que l'on devait mettre en place au Maroc ou en Méditerranée à l'extérieur. On ne voulait pas ces migrants. Et l'agence de garde-frontières, de garde-côtes européenne n'a pas encore suffisamment de moyens pour contrôler ce flux migratoire. Les États, malheureusement, en tirent la conséquence en construisant des murs. Et c'est tout à fait dommage, car cela est contraire quand même à une politique d'accueil, à une politique d'asile et à la Convention des réfugiés de Genève.
Oui, et puis c'est contraire à tout l'esprit européen qui s'est construit justement quand même sur la libre circulation.
Oui, tout à fait. Alors c'est l'espace Schengen, c'est-à-dire dès lors que vous rentrez de façon régulière ou que vous avez un titre de séjour en qualité de réfugié par exemple, il y a une liberté de circulation. Et aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement que les États se substituent à l'Union européenne pour le contrôle des frontières et tout cela met à mal de nouveau les valeurs européennes et l'accueil des réfugiés, notamment cela va s'appliquer éventuellement également aux Afghans.
Il y a une espèce de concurrence aujourd'hui en Europe. On a lu certains éditorialistes polonais qui se réjouissaient de voir que l'Union européenne se ralliait à leur politique de fermeture de frontières.
Non, écoutez, ça, c'est aussi une posture populiste, politique. On est en plein contexte électoral ou préélectoral en Hongrie, en Pologne. Donc, il ne s'agit pas de se rallier à une politique populiste nationaliste. L'Europe a toujours dit qu'elle souhaitait contrôler ses frontières. Elle est en train de renforcer ses moyens financiers et matériels humains. Et par conséquent, il est hors de question de se rallier à quoi que ce soit. Si l'Europe fait un contrôle de ses frontières, c'est dans le respect d'une politique d'intégration pour les personnes qui sont accueillies et dans le respect des valeurs de l'Union européenne. Ça n'a strictement rien à voir avec le langage populiste hongrois ou polonais.
Oui, justement, parlons d'utilisation des migrants à des fins politiques. C'était en France, le week-end dernier, les journées parlementaires du parti Les Républicains, à l'occasion pour ceux qui rêvent d'être le candidat de la droite aux prochaines élections présidentielles, d'en dire un peu plus sur leur programme. Et parmi eux, Michel Barnier, négociateur en chef du Brexit, ex-commissaire européen. On l'écoute.
Il faut maîtriser l'immigration. C'est aussi simple que ça. La politique d'immigration française ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas non plus en Europe. C'est un des points que j'ai évoqué tout à l'heure en vous disant que je sais ce qu'il faut changer. Et je sais aussi probablement comment on doit agir. Je pourrais en dire un mot tout à l'heure. C'est le sens du moratoire que j'ai proposé. Nous allons utiliser ce temps pour ouvrir une négociation avec nos partenaires européens, de telle sorte que Schengen fonctionne enfin, que les frontières extérieures de l'Union ne soient plus des frontières passoires. Et puis nous allons ouvrir une négociation qui sera difficile avec les pays d'où viennent les immigrés, aujourd'hui économiques, demain climatiques, pour que les règles du jeu, notamment sur les réadmissions, soient mises en œuvre. Nous ne pouvons pas faire tout cela sans avoir retrouvé notre souveraineté juridique, en étant menacés en permanence d'un arrêt ou d'une condamnation au niveau de la Cour de justice européenne ou de la Convention européenne des droits de l'homme, ou d'une interprétation par nos propres institutions judiciaires. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de dire que nous proposerons, à l'occasion du premier tour des élections législatives, les termes d'un référendum qui sera organisé au mois de septembre l'année prochaine sur l'immigration, avec deux objectifs, celui d'un contrôle parlementaire sur les quotas d'immigrés chaque année et d'un vote par le Parlement, et enfin celui de retrouver, à travers un bouclier constitutionnel, notre liberté de manœuvre et d'interprétation.
Patrick Martin-Jeunier, une réaction?
Oui, écoutez, je suis, choqué, mais pas surpris par les propos de Michel Barnier, mais je trouve ça extrêmement dommageable pour lui, parce qu'en quelques minutes, en quelques paroles, il a détruit toute sa réputation d'Européen. Voilà quelqu'un dont on pense qu'il est bien plus proche désormais de Viktor Orban que des Européens convaincus, puisqu'il met en cause la souveraineté juridique européenne. En d'autres termes, il ne veut plus entendre parler des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme. Finalement, c'est quelqu'un qui met à bas toutes des années de construction européenne. Il a détruit sa réputation d'Européen sincère et convaincu. Et malheureusement, voilà quelqu'un qui se rapproche de la droite, voire de l'extrême droite populiste européenne. Et ça, c'est extrêmement choquant, venant de quelqu'un qui a eu un engagement européen très important. Et a priori, il n'a pas démenti ses propos.
Et il se met en porte-à-faux face à l'Europe, mais aussi face aux lois, la législation internationale, oui. La Convention européenne des droits de l'homme.
Écoutez, on est membre de la Convention européenne des droits de l'homme, donc c'est celle-ci qui s'applique. Lorsqu'il y a un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, il s'applique dans tous les États. Donc il n'est pas possible de dire d'un seul coup qu'il ne faut plus qu'on soit sous le coup des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a ce qu'on appelle la primauté du droit européen. Donc dès lors que le droit européen prime, que nous avons voté des directives, que nous avons voté des règlements, ça doit s'appliquer. Dire le contraire, c'est de remettre en cause carrément l'intégration européenne.
Et je m'adresse d'ailleurs au professeur de droit que vous êtes, puisque cette primauté du droit européen sur le droit national, c'est justement ce que contestent aujourd'hui la Hongrie et la Pologne.
Oui, tout à fait. Et donc, on voit là Michel Barnier se rapprocher de la droite au sein de son parti politique, de se rapprocher des nationalistes, des populistes, et donc c'est extrêmement grave. Je rappellerai quand même à Michel Barnier qu'il existe dans la Constitution une exigence constitutionnelle de transposition des directives, et que s'il ne le sait pas, la supériorité du droit de l'Union européenne, c'est dans la Constitution.
Patrick Martin-Jeunier, professeur de droit public, est notre invité dans l'émission Carrefour de l'Europe. Pour préparer cette émission, je vous ai demandé de choisir une musique. Vous avez choisi le groupe légendaire suédois ABBA, qui effectue un grand retour, et son titre Mamma Mia, parce que vous avez des origines italiennes. Et on parlait de migration, c'est un peu ça l'Europe aussi, c'est la mixité.
Oui, tout à fait. Alors ABBA, d'abord, quand vous allez à Stockholm, on voit bien qu'ABBA, c'est un groupe qui est adoré, adulé. Donc la chanson fait partie de la culture européenne. Mamma Mia, pourquoi? Parce qu'effectivement, j'ai des origines italiennes. Mes grands-parents étaient du Piémont. Ils ont fait partie de cette première vague d'immigration italienne en France. Et donc, il ne faut jamais oublier ses origines. Et que l'Europe, c'est avant tout la diversité. Et voilà des personnes qui sont immigrées en France, qui ont obtenu la naturalisation population française après, qui se sont intégrés, et l'Europe s'est construite par des vagues de migration successives, et je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. C'est ça aussi l'Europe.
On écoute Mamma Mia et on se retrouve juste après pour parler des élections en Russie, d'écologie et du prochain scrutin allemand. L'Europe avec Patrick Martin-Genier sur Mamma Mia. Il y a en cette fin de semaine beaucoup de scrutins importants. On vote en Russie, ou plutôt on essaie de voter, tant la répression contre tous les mouvements anti-Kremlin a été forte, y compris avec la tentative d'empoisonnement et l'emprisonnement du principal opposant Alexei Navalny. Le scrutin est donc très verrouillé pour assurer la victoire du parti Russie uni de Vladimir Poutine. Bonjour Anissa El-Jabri.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes notre correspondante à Moscou et on va vous poser une question un peu spéciale. C'est, est-ce qu'on parle un petit peu d'Europe dans ces élections russes, ou bien l'Europe est une quantité négligeable pour Vladimir Poutine?
Pour ça, Frédéric, il faudrait déjà qu'il y ait eu une campagne des camps vraiment opposés et des débats. D'ailleurs, quand on demande aux moscovites quels faits, quelles déclarations les a marqués, c'est bien simple. On ne trouve à peu près personne pour citer un événement ou une phrase, à part de temps en temps au fil des interviews, un électeur qui cite l'absence de candidats de l'opposition qui soient en fuite derrière les barreaux pour les figures identifiées et leurs proches, ou tout simplement empêchés de se présenter. Alors dans ce contexte, évidemment, l'Europe n'est présente dans le débat public que sous la rhétorique classique connue du pouvoir, celle d'une entité inamicale, par exemple ici des cadres de Russie Unie. Le parti aux commandes m'ont demandé pourquoi l'Union européenne n'envoyait pas d'observateurs et s'il fallait en tirer la conclusion que les Européens avaient à l'avance décidé de délégitimer les élections.
L'Europe et ses sanctions décidées après l'invasion de la Crimée et l'incarcération de Navalny peuvent-elles peser sur la situation économique déjà dégradée en Russie ?
Bien, vous venez de le souligner, les premières sanctions ont été décidées après l'annexion de la Crimée, soit en 2014, 7 ans déjà. Elles sont reconduites d'année en année et d'autres ont suivi, les dernières décidées suite à l'incarcération de Navalny. Alors oui, ça pèse sur l'économie russe, sur le pouvoir d'achat, mais ça fait des années et ça ne change rien sur l'orientation diplomatique de Moscou. Du reste, l'annexion de la Crimée, ça reste largement approuvé par l'opinion. Enfin, ici, s'est développé aussi avec ces sanctions un nouveau pan de l'économie. Dans la capitale russe, comme ailleurs dans le pays, on s'est mis à fabriquer localement et à vendre des produits qui font partie de la liste de ceux que la Russie sanctionne en réponse aux sanctions européennes. Par exemple, on trouve des fromages français mais russes, du brie et du camembert.
Et le principal levier de pression de l'Europe, Anissa, c'était le gazoduc Nord Stream 2. Depuis le compromis européen, l'Europe maintenant dépend du gaz russe, à moins que ce ne soit le contraire. La Russie dépend du client européen.
Je voudrais préciser quelque chose. D'abord, d'une manière générale, Moscou ne considère pas l'Union européenne comme une entité avec laquelle traiter. Moscou préfère s'adresser directement à une capitale ou à une autre, et de préférence à Berlin. En l'occurrence, sur ce dossier, c'était bien l'Allemagne, le principal promoteur du projet en Europe. Et c'est au nord du pays, au bord de la Baltique, qu'arrive le tout dernier tronçon de Nord Stream 2. Ensuite, sur ce dossier aussi, c'est vrai, les Européens se sont toujours montrés très divisés. Pour la Pologne et les Pays-Baltes, par exemple, terminer Nord Stream 2, c'était plier devant les ambitions russes. Alors, vous me posiez cette question, qui a le plus besoin de Nord Stream 2? Eh bien, c'est difficile à dire. En 2018, par exemple, un institut de recherche allemand estimait que ce gazoduc, qui était fondé sur des prévisions qui surestimait la demande de gaz naturel en Allemagne, mais aussi en Europe. Mais à court terme, et en tout cas pour les prochains mois, on le sait, le prix du gaz a explosé sur tout le continent européen. Et ça, eh bien, la presse russe ne se prive pas de le souligner et de faire de nombreux articles sur le sujet.
Merci Anissa El-Jabri. Patrick Martin-Genier, le nouveau gazoduc Nord Stream 2 va-t-il placer l'Europe dans une position de dépendance vis-à-vis de la Russie ?
Ce qui est certain, effectivement, c'est que nous sommes dépendants sur le plan énergétique, pas uniquement du point de vue du gaz, et que ce gazoduc a été très critiqué, notamment par les États-Unis. Il y a eu aussi un débat en Allemagne. C'est vrai que ça nous positionne dans une position d'infériorité, mais il faut aussi que l'Europe soit indépendante, qu'elle assure son indépendance énergétique. On parle beaucoup de souveraineté. Le problème, c'est que plus vous cherchez des accords énergétiques, plus vous êtes dépendant d'autres puissances. D'où la relance dans certains pays d'un débat sur le nucléaire. Tout le monde pensait pouvoir sortir du nucléaire. L'Allemagne est sortie du charbon, veut sortir du charbon. Angela Merkel a voulu et a décidé en 2011-2012 de sortir du nucléaire. Le seul problème, c'est que demain, si on nous coupait nos sources énergétiques, notamment de la part de la Russie, ou le pétrole ou ailleurs, est-ce que nous serions indépendants ? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Car il ne faut pas faire preuve d'angélisme pour Vladimir Poutine et pour la Russie. C'est aussi un moyen de pression sur l'Union européenne.
Oui, et puis ça fait peser sur les Européens une problématique supplémentaire pour dénoncer la question des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme.
Voilà, mais c'est ce que je regrette moi particulièrement, c'est que nous avons totalement abandonné toute politique des droits de l'homme. Nous ne défendons plus les droits de l'homme, on préfère les gros contrats, on préfère le commerce, le business, et on ne parle plus des droits de l'homme. Même Angela Merkel a été très soft sur ce point. Plus personne n'ose parler de droits de l'homme à l'extérieur, et on préfère parler de politique inclusive, par exemple, avec la Chine. Des accords commerciaux, rappelez-vous, le Parlement européen a refusé et a dit qu'il refuserait de ratifier cet accord de libre-échange commercial avec la Chine pour méconnaissance des droits de l'homme. L'Europe, et c'est tout à fait dommage car c'est contraire à ses valeurs, a jusqu'à présent abandonné toute politique de droits de l'homme.
Oui, justement, Svetlana Tikhanovskaya, la représentante de l'opposition biélorusse, était à Paris cette semaine. Clairement, elle attend un soutien de l'Europe.
Oui, mais vous voyez qu'avant de faire une déclaration au niveau du Conseil européen, il faut que 27 États membres soient d'accord, car il n'y a pas de politique étrangère. Donc on est d'accord sur le minimum, dénominateur le plus petit, et donc hormis des sanctions, dont on connaît les effets tout à fait limités, il n'y aura pas d'autres politiques européennes pour le soutien. On ne va pas aller à Minsk, on ne va pas aller dans différents États.
On ne va pas aller déloger Loukachenko.
On ne va pas aller déloger Loukachenko, et donc par conséquent, la politique européenne est tout à fait limitée et de surcroît, comme le pense Vladimir Poutine, ce n'est certainement pas à Bruxelles qu'on décide une politique étrangère, mais c'est à Berlin, Paris ou ailleurs.
Oui, et d'ailleurs, c'est une des critiques que vous faites souvent et que vous adressez à l'Union européenne, c'est son manque de visibilité et particulièrement en matière de politique étrangère, même s'il y a un représentant pour les affaires extérieures, hein, Josep Borrell. Ouais. L'Europe n'existe pas encore vraiment sur la scène internationale, pas assez.
Non, pas du tout. Le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune ne fait que, on va dire, se faire le porte-parole d'un minimum de consensus au niveau de l'Union européenne. Mais vous pensez bien que certains pays ne sont pas d'accord sur les sanctions. Et donc, l'Europe n'a pas de politique étrangère pour la raison que certains ne sont pas d'accord, qu'il s'agisse de la Hongrie, de la Pologne, de la France ou d'autres pays. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde sur les grands enjeux internationaux.
Et puis on sait jamais qui doit représenter l'Europe, finalement.
Voilà. Oui, ça c'est une grosse difficulté de l'Europe. Il faudrait qu'un jour on réfléchisse à l'avenir sur nos institutions. Il faut que nous ayons un représentant de l'Europe. Vous vous rendez compte que lorsque l'Europe se déplace à l'étranger, rappelez-vous le scandale du sofa en Turquie.
Rappelez-nous, oui.
Ah oui, bah c'était Ursula von der Leyen qui s'en va en Turquie. Elle est avec Charles Michel, qui est le président du Conseil européen, et on ne sait pas qui représente l'Europe. Et c'est Charles Michel qui obtient un siège à côté d'Erdogan, alors que Ursula von der Leyen, qui est présidente de la Commission européenne, doit se contenter
d'un petit strapontin sur
à côté.
D'accord, voilà. Il y avait un peu de machisme peut-être aussi.
Il y avait aussi du machisme de la part d'Erdogan, mais aussi beaucoup d'inélégance de la part de Charles Michel, le président du Conseil européen. Mais pour être effectivement, quand on regarde l'ambiguïté des institutions, très souvent, on a le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne, voire le président du Parlement européen qui se déplace. Et donc, il y a un problème de visibilité des institutions européennes.
Oui, cacophonie. Énergie, environnement, ces thématiques sont au cœur de nombreuses campagnes électorales cette semaine. On l'a vu en Norvège où les travaillistes sont revenus au pouvoir et où les Verts ont mené campagne pour mettre un terme à l'industrie extractive pétrolière. L'Europe, plus précisément la Commission européenne, a lancé un pacte vert, Green Deal en anglais, ambitieux. Il vise la neutralité carbone pour 2050. Puis il y a d'autres pistes pour le climat, les voitures thermiques interdites à la vente en 2035. L'Europe trop loin des citoyens, c'est une critique qui revient souvent. On va voir qu'on est plutôt dans le très concret avec vous, Alice Rougeat, bonjour.
Bonjour.
On va voir comment toute l'Europe va devoir bientôt se passer des plastiques à usage unique.
Oui, et derrière ce terme générique se cachent beaucoup d'objets du quotidien finalement assez inutiles ou facilement remplaçables. Dont un que j'adore, je vous le dis comme une confidence, mais quand on part faire la fête et danser jusqu'au matin avec les copains, on adore se barbouiller le visage de paillettes. Sur les tempes, les paupières, ça brille façon boule à facettes.
Et des paillettes qui devraient être interdites désormais.
Oui, vous aviez bien suivi l'actualité cet été depuis le 3 juillet dernier, une date symbolique car celle de la journée internationale sans sac en plastique, les États européens ont mis en application la directive 904. Votée par les eurodéputés il y a 2 ans, elle vise à faire disparaître tout un tas d'objets plastiques de nos quotidiens et avec l'ambition Horizon 2030 de passer à un modèle d'économie circulaire où le plastique serait réutilisable et complètement recyclable.
Alors quels sont les objets concernés par cette directive?
Des objets qui ont du mal à arriver dans des poubelles. Je ne sais pas, il doit y avoir un déficit d'habileté avec les cotons-tiges, couverts jetables, touillettes pour le café, confettis et paillettes en plastique, mais aussi tous les emballages en polystyrène expansé, les fameuses boîtes à kebab ou les gobelets de fast-food, et aussi les produits en plastique oxo-dégradable. Ce sont les pires, ceux qui, à force de s'oxyder, se décomposent en micro-particules et qu'on finit par retrouver partout, des sommets de l'Himalaya au fond des océans et forcément dans tous les organismes vivants. Le plastique, on le sait, c'est une pollution totale, d'où l'urgence pour l'Union européenne de faire bouger les lignes.
Et alors que cette directive va être transposée dans les lois nationales, ces plastiques ont-ils disparu du continent?
Alors comme toujours, quand vous poserez cette question, la réponse sera oui. Et non. En fait, il y a des pays qui n'ont pas attendu le 3 juillet dernier pour appliquer cette directive. Rien qu'en France, par exemple, différentes lois depuis 2017 se sont attachées à faire disparaître une partie de ces objets, voire à aller plus loin. C'est aussi le cas de la Grèce, de la Suède, de l'Irlande et de l'Estonie, où les sacs en plastique sont déjà interdits depuis plusieurs années. Et ce sont les seuls pays en vert sur une carte réalisée par l'association de lutte contre la pollution des océans, Surfrider Foundation. Tous les autres sont en jaune pour signifier en cours d'application de la directive européenne ou en rouge pour en retard ou très en retard, symbole d'une avancée vitesse tortue. Sans offense pour les tortues, la vindicte allait plutôt à l'encontre des lobbies industriels.
Oui, parce que l'Europe en 2016 était le deuxième producteur mondial de plastique derrière la Chine.
Oui, et c'est notamment le cas en Italie. L'Italie est très performante dans la production de plastique. La directive européenne a mis la balle grandement en colère un député d'extrême droite ainsi que le ministre de la Transition écologique. Parce qu'elle est devenue, l'Italie, je vous le disais, le leader mondial du bioplastique. Toujours à usage unique, les couverts ou assiettes sont fabriqués à base de maïs ou de matériaux dits naturels. Sauf que, bio ou pas, la directive interdit tous les objets plastiques à usage unique. Car il n'existe pour l'instant aucune preuve scientifique assurant que ces matières ne finissent pas par polluer partout.
Et les États ont-ils un vrai pouvoir coercitif?
Ils peuvent. En Belgique, par exemple, une taxe sur le plastique est en train d'être mise en place. Chaque entreprise ou contribuable dépassant un certain seuil de plastique utilisé devra payer. En France, contrevenir aux lois instaurant la fin de certains objets en plastique est déjà passible d'une amende de 450 euros. Mais bon. Avouons-le, nous sommes encore loin d'une Europe sans plastique, surtout en cette période de pandémie. Le matériel médical, tous les masques qu'on utilise, ne sont par exemple pas pris en compte dans les différentes lois et directives. Et comme toujours, celles et ceux qui se bougent le plus sont d'abord les associations et ONG, et c'est grâce à leur propagande que je suis en studio non pas avec une bouteille mais une gourde, et que vous, Frédéric, vous boirez votre prochain cocktail avec une paille en bambou.
On le voit bien, Patrick Martin-Genier, avec cette chronique. On passe presque dans l'arrière-cuisine européenne pour voir comment une directive européenne s'applique ensuite dans les différents pays. On le voit avec l'exemple italien qui refuse finalement d'appliquer cette directive puisque ça met un petit peu en danger toute son industrie de plastique bio.
Oui, alors faut savoir une chose, il y a l'aspect politique et l'aspect juridique. Sachez qu'une directive, elle est obligatoirement applicable dans les États européens à compter de la date d'expiration, de transmission, de transposition en droit interne.
Il faut la transposer dans le droit.
Oui, mais même si au bout de deux ans, un État, par exemple, ne l'a pas transposée, elle est parfaitement applicable. On l'a bien vu encore récemment avec le contrôle technique des deux roues en France. Rappelez-vous la polémique de cet été. Le président de la République suspend l'application d'un décret du Premier ministre qui transposait le contrôle technique des deux roues, mais en réalité, cette directive est applicable, c'est-à-dire qu'on doit effectivement l'appliquer. Donc, s'agissant du plastique, c'est d'autant plus surprenant que certains États ne veuillent pas l'appliquer, alors que ce sont eux-mêmes qui l'ont voté à Bruxelles. Ça se passe comment une directive ? C'est une loi européenne. Et donc, elle ne se décide pas comme ça. C'est quelque chose qui est proposé par la Commission européenne. Et ensuite, les États vont voter cette directive à une majorité qualifiée s'agissant de l'environnement. C'est-à-dire que la France, l'Italie, lorsqu'elle va au Conseil des ministres de l'environnement, votent pour cette directive et ensuite elle est adoptée par le Parlement européen.
Oui, on ne peut pas faire semblant de découvrir qu'elle existe. Voilà. Est-ce que l'Europe est devenue le fer de lance mondial de la lutte contre le dérèglement climatique ?
Oui, ça, je crois qu'on peut le dire, d'autant qu'il se produit toujours des désastres sur le plan climatique. On a bien vu avec les inondations en Allemagne au mois de juillet qui ont fait plus de 200 morts. Aujourd'hui, il y a véritablement une exigence d'aller vers un environnement plus respecté, plus écologiste. Et donc, il y a une exigence de la part de l'Union européenne qui, avec son Green Deal de la Commission européenne, effectivement, va apparaître dans les années qui viennent comme véritablement, je ne sais pas si on peut dire un modèle, mais comme un exemple à suivre pour investir beaucoup plus dans les énergies propres.
Carrefour de l'Europe, Frédéric Lebel.
On va continuer à regarder vers le futur, pas très loin, le week-end prochain. Les Allemands votent pour renouveler leur Parlement et donc aussi nommer leur chancelier ou leur chancelière. Là encore, les Verts sont très présents. Ils pourraient faire partie d'une prochaine coalition au pouvoir. Mais le grand chamboulement, c'est bien sûr le départ d'Angela Merkel après 16 ans au sommet. Est-ce qu'on peut dire qu'Angela Merkel a beaucoup fait pour l'Europe ou bien, comme l'écrivait une de ses biographes, qu'elle est finalement devenue européenne presque un peu sur le tard?
Oui, je crois qu'on peut dire ça, parce qu'à l'origine, vous savez, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'elle avait, elle avait fait partie du dernier gouvernement de la République démocratique allemande. Elle avait été porte-parole, et donc c'est quelqu'un qui n'était pas européenne de cœur, mais qui l'est devenue de raison. J'entendais récemment Angela Merkel se confier sur la scène d'un théâtre, car elle commence à raconter son histoire, elle va rédiger ses mémoires, dire que sa plus grande fierté, c'est d'avoir été une femme de compromis, c'est-à-dire avoir été en situation, en sa qualité de chancelière, d'obtenir des compromis pour faire avancer l'Europe. Même s'il n'a pas été européenne de cœur, elle a été européenne de raison. Grâce à la puissance de l'Allemagne et à sa connaissance des affaires européennes, elle a su avancer sur la voie de compromis, par exemple au traité de Lisbonne en 2009, mais encore plus récemment lors de l'adoption du plan de relance avec la mutualisation de la dette. C'est grâce à elle qu'on a pu avancer effectivement et obtenir un compromis.
Oui, ça c'était un énorme pas. Oui. On n'y croyait plus.
Non, on n'y croyait plus parce que fondamentalement, les Allemands ne sont pas pour mutualiser la dette. Il y a même beaucoup de recours devant la Cour, le tribunal constitutionnel allemand, pour des contribuables allemands qui estiment qu'ils perdent de l'argent en payant pour les dettes des autres pays, notamment les pays du Sud. Et donc, grâce à l'initiative également d'Emmanuel Macron, mais à cette capacité très très bonne d'Angela Merkel de trouver des compromis, on a pu arriver effectivement à un résultat tout à fait satisfaisant.
Et quand on parle d'Allemagne sur la scène internationale, on parle bien sûr de la France et de l'Allemagne, le couple franco-allemand, le moteur de l'Europe. On l'a souvent dit, on va retrouver Michaela Wiegel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante à Paris du Frankfurter Allgemeine Zeitung. J'ai envie de vous demander, est-ce que les élections ont été passionnantes vues d'ici ?
Alors, je dirais, elle est certainement plus intéressante qu'on a tendance à dire, mais elle est marquée par une grande absence de débats européens et notamment sur la politique étrangère et de défense commune. Et ça, c'est vrai que ça peut étonner vu de Paris, parce que on avait l'habitude, notamment avec la dernière campagne présidentielle, que les questions européennes jouaient un grand rôle.
Et pourtant, le couple franco-allemand est très présent. Deux des candidats sont venus à Paris, Angela Merkel également. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que dans une Europe divisée, le couple franco-allemand est plus important que jamais, en fait, parce que c'est seulement par ce biais qu'on peut avoir une relance européenne?
Le couple franco-allemand est certes nécessaire, mais n'arrive plus à réunir tout le continent européen. Et je crois qu'il faudrait vraiment rassembler plus large que seulement le couple franco-allemand.
Avec qui?
Alors justement, il y a deux divisions sur des questions différentes. Il y a la division Est-Ouest, notamment sur les questions de migration et d'état de droit. On a le triangle de Weimar avec la Pologne, mais il faudrait vraiment le réactiver. Et sur les questions de la dette et du financement futur, il y a une autre division qui va plutôt pour schématiser du sud au nord. Et là, il faudrait trouver des nouvelles alliances.
En studio, nous sommes avec Patrick Martin-Jeunier, spécialiste du droit public et des institutions européennes. Je crois que vous avez une petite question à lui poser.
Oui, l'Allemagne a accepté le fonds de relance européen. Est-ce que pour vous, cette mutualisation des dettes ne risque pas d'engendrer des procédures constitutionnelles, notamment parce que les députés considèrent qu'on les prive de leur droit de décider du budget?
Oui, vous avez tout à fait raison. Le problème de l'intégration européenne en Allemagne, c'est que ce soit validé par le tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Et donc, oui, il pourrait y avoir des recours. Certains députés, élus l'ont fait, surtout des épargnants ont fait des recours. Mais jusqu'à présent, les recours dans le tribunal constitutionnel ont été rejetés. Ça avait été le cas pour le mécanisme européen de stabilité. C'est vrai qu'il y a une grande réticence, notamment des épargnants allemands, pour aller plus loin sur la voie de la mutualisation. S'agissant du prêt de 750 milliards d'euros. Normalement, celui-ci est acquis, mais il pourrait y avoir à l'avenir, effectivement, dans le futur Parlement, des gens qui souhaiteraient arrêter ce processus de mutualisation. Rien n'est définitivement acquis, en effet.
Beaucoup de questions sur ces élections allemandes. Il y aura sans doute une coalition à trois, donc beaucoup de négociations qui pourraient durer des mois. Et déjà, Paris qui s'inquiète en se disant, si ça dure des mois, alors qu'en est-il de la relance européenne du couple franco-allemand? C'est un danger, ça?
Oui, je crois que c'est une inquiétude de la part de Paris. Vous aurez remarqué que le président de la République a même reçu deux des principaux candidats, Armin Laschet pour la CDU et Olaf Scholz pour le SPD. Madame Annela Baerbock des Verts a refusé de venir à Paris, estimant que le combat électoral se faisait dans son pays. Mais il est vrai qu'il pourrait y avoir une période d'incertitude, car autant Angela Merkel était très forte, elle avait une grande expérience, autant le résultat des élections reste assez incertain, car vous avez vu que la CDU d'Angela Merkel a baissé, Olaf Scholz, le ministre de l'économie et des finances, a monté, et Annela Baerbock des Verts est à environ 17-18%. Donc effectivement, il y aura somme toute une coalition entre trois partis, mais il ne faut pas exclure les petits partis politiques comme les partis libéraux, le FDP qui est à environ 10%, voire la gauche radicale allemande qui sera à environ 6%. Et on pourra remarquer qu'Olaf Scholz, par exemple, n'a pas exclu une éventuelle coalition avec cette gauche.
Les élections allemandes, ça va être aussi un tournant pour l'Europe?
Oui, je pense que ce sera un tournant pour l'Europe, bien que moi je reste persuadé que le dogme budgétaire allemand va perdurer, hein, au-delà des différences politiques.
La rigueur budgétaire, hein, c'est inscrit dans la lettre. Les 3% de déficit maximum.
Oui, et d'ailleurs la Commission a prévenu que le fait de pouvoir être tolérant avec ce déficit et la dette, ça ira jusqu'en 2023, mais qu'après il faudra resserrer les boulons. Ce sera le cas de l'Allemagne, qu'ils agissent d'ailleurs. Soyons certains que s'il s'agisse de la CDU ou du SPD, eh bien l'Allemagne reviendra de toute façon à une politique de rigueur budgétaire, car le fait de soutenir la relance européenne par des dettes et des déficits, ce n'est pas dans la culture allemande.
Ouais, donc on n'en a pas fini avec la rigueur.
Non, pas du tout, je ne pense pas.
Merci Patrick Martin-Jeunier. Carrefour de l'Europe, c'est tous les dimanches sur RFI, mais c'est aussi sur le site de RFI et vos plateformes de podcast préférées. De nombreux merci aux réalisateurs, Guillaume Munier, à tous les journalistes de la rédaction, correspondants pour leurs reportages et chroniques passionnants. On se retrouve dès dimanche prochain en direct depuis Berlin, justement, pour commenter les premiers résultats des élections allemandes. Session Lab,